Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
On revient ce matin sur les recommandations qui ont été présentées hier par ce groupe de travail concernant la consommation de l'alcool. Et des recommandations qui font bien sûr jaser énormément. On est passé du nombre de verres à introduire la notion de risque. Autrement dit, dès qu'on prend un verre, on est à risque. Donc, un risque faible serait de 1 ou 2 verres par semaine d'alcool. Ça dépend ce que vous prenez. Est-ce que c'est du vin? Est-ce que c'est de l'alcool? Donc, les quantités sont différentes. Risque modéré de 3 à 6 verres et risque de plus en plus élevé, 7 verres ou plus par semaine. Beaucoup de gens ont réagi. Les auteurs de cette étude se basent sur des recherches qui ont été faites notamment par des chercheurs de l'Organisation mondiale de la santé. Je parlais hier matin avec Mme Paradis qui disait « Voici le nec plus ultra de la recherche ». C'est fort différent de ce qu'on a vu alors que les recommandations permettaient une consommation plus élevée. On a eu tout ce débat dans les dernières années sur les bienfaits du vin, les vertus du vin, entre autres. Je vais en parler ce matin avec le docteur Jean-Pierre Riffler, qui est médecin urgentiste en France. Il est l'auteur du livre « Les vertus du vin », l'importance de mettre en évidence ses atouts, puis aussi les bienfaits d'une consommation, évidemment, modérée. Docteur Riffler, bonjour.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Docteur Riffler, d'abord, peut-être vous avez vu les recommandations de ce groupe de travail qui parle de minimiser les risques et dès qu'on prend un verre, il y a un risque. Comment vous interprétez, qu'est-ce que vous comprenez de ça puis qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, moi, ce que j'en pense, c'est 3 verres par jour et tous les jours. Je crois qu'il faut un peu dédramatiser tous ces hygiénistes qui sont certainement pas drôles et qui veulent, pour éviter l'alcoolisme, empêcher tout le monde de boire, alors qu'on sait parfaitement que depuis le début de l'humanité, l'homme a toujours consommé de l'alcool, sous forme de vin le plus souvent d'ailleurs, et on ne serait pas arrivé à autant d'humains sur Terre sans cette consommation. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on accuse l'alcool de tous les maux. Alors que moi, ce que je vois dans mes chiffres, c'est que on boit de moins en moins et le cancer continue d'augmenter. Donc, il y a quand même un problème. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit mon livre « Les vertus du vin » où je veux un peu dédramatiser et rassurer les consommateurs modérés. Alors, pour moi, consommateur modéré, c'est 3 verres par jour et tous les jours. C'est ce que Saint-Benoît recommandait à ses moines pour comme portion dans sa règle 40 suffisante et nécessaire chaque jour.
Mais j'allais dire, docteur Riffler, c'est compliqué pour un consommateur, un citoyen de s'y retrouver. Il y a quelques années, on mettait en évidence le régime méditerranéen, on mettait en évidence les vertus, ce qu'on appelait le French paradox, des effets bénéfiques sur le plan de la santé cardiaque, sur le plan de maladies neurologiques. Et là, on nous arrive avec un autre discours complètement, et c'est béni par l'Organisation mondiale de la santé.
Je pense que c'est un petit peu une fatwa contre l'alcool. Et je pense que d'ailleurs, tous ces chercheurs du Lancet qui avait déjà publié une étude en 2018 arguant que le French Paradox n'existait pas, qu'il n'y avait pas cette courbe en J qui consiste en une consommation modérée, bénéfique pour la santé et bien sûr supérieure à la surconsommation, mais aussi supérieure à la non-consommation. Cette consommation bénéfique qui représente le French Paradox, finalement, ils ont revu leur copie. Il y a la même équipe a ressorti un papier dans le Lancet en juillet 2022 qui fait son mea culpa et qui explique qu'effectivement, il y avait peut-être des biais de population et que finalement, cette consommation bénéfique, régulière, modérée, est bénéfique pour la santé.
Quand vous dites bénéfique pour la santé, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme exemple ce matin? Et vous ne vous basez pas sur des impressions, vous le dites dans le livre, vous vous basez sur des résultats d'études, de recherche.
Alors, moi j'ai fait œnologie en même temps que médecine. J'ai soutenu ma thèse de médecine sur les effets bénéfiques des vins rouges sur la santé cardiovasculaire. J'avais travaillé d'ailleurs avec Serge Renaud à l'époque. Et d'ailleurs, dans l'étude Color, qui est l'étude de Nancy, qui était l'étude de base du French Paradox, on a bien distingué les effets du vin et les effets de l'alcool. Et le vin n'est pas un alcool comme les autres. Après, sur les effets bénéfiques, ils sont bénéfiques un petit peu sur tout, puisque le vin a un effet l'alcool a un effet vasodilatateur par lui-même, mais surtout, le vin est un... permet la dissolution des polyphénols, donc qui sont ces antioxydants bénéfiques pour notre santé, bénéfiques sur Alzheimer, bénéfiques sur la santé cardiovasculaire, bénéfiques sur un petit peu tout, hein, même la santé en général. Moi, je pense qu'il ne faut pas confondre l'alcoolisme et la dose d'alcool modérée qui va faire partie justement de ce régime méditerranéen. Paracelse disait toujours, c'est la dose qui fait le poison. Moi, je dirais plutôt boire avec trop de passion est un petit peu toxique. Par contre, boire avec raison, c'est une potion. Et c'est vrai que le vin est une potion d'immortalité. C'est ce qui nous a permis d'arriver jusque-là. Ce vin, c'est un extrait de polyphénol, donc d'antioxydants, qui va jouer contre le stress oxydant, qui est un petit peu le primum movens de tous les maux actuels. Hein. Ça agit sur le diabète, ça agit sur l'hypertension, ça agit sur l'obésité. À partir du moment où on va consommer ces polyphénols, et l'hiver, c'est vrai qu'on n'a pas de végétaux à disposition pour se supplémenter. Donc le vin est vraiment une conserve d'antioxydants pour l'hiver et est nécessaire à la santé. C'est, vous savez, moi je suis bourguignon, hein. On a l'hiver, qu'est-ce qu'on mange? On mange du coq au vin, on fait du bœuf bourguignon et on fait chabrot, c'est-à-dire qu'on met du vin rouge dans la soupe. C'est cette petite dose d'antioxydants qui est nécessaire à la santé et qui nous permet de vivre longtemps.
Merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, c'était le docteur Jean-Pierre Riffler, qui est médecin urgentiste en France, mais qui a écrit ce livre, et je le cite, pour dédramatiser la consommation de vin. Ça s'appelle « Les vertus du vin ». C'est paru en septembre 2022. Et là, je le sais, là, recevoir le lot de courriels de bêtises en disant que c'est épouvantable. Mais il n'est pas le seul à dire ça. Et hier, j'avais posé la question à Mme Paradis. Elle a dit non, ça, c'est périmé, ces études-là, c'est plus valable. Bon. Mais il y a tout un discours quand même en France qui est dans cette direction. Est-ce qu'on peut écouter deux extraits? Puis je vous fais entendre deux autres médecins avec qui j'ai fait des entrevues et qui vantent encore une fois les vertus. Et là, je plaide le coupable. Je suis un amateur de vin. Fait que ce matin-là, oui, je plaide coupable, j'ai un billet, j'ai tout ce que vous voulez, là, je suis pas objectif, pas neutre, pantoute. Voici deux extraits que je vais vous faire entendre.
Il s'agit d'avoir un équilibre dans la vie, ce qui veut dire que rien ne vous empêche de faire un excès de temps en temps et d'équilibrer ensuite. Mais arrêtez de penser que manger un bœuf bourguignon ou je sais pas quoi, un cassoulet ou faire plaisir même avec une portion de frites et une côte de bœuf, c'est pas ça qui va vous tuer. Arrêtez d'avoir peur.
Voilà, et le collègue Fabrice de Pierrebourg, qui est, vous comprendrez directement, interpellé par le débat actuel, m'a envoyé une pub qui a circulé en France en 1956. Et c'est une pub qui porte sur les enfants à l'école, sur le fait qu'ils ont maintenant droit à des repas plus intéressants. Mais il y a une allusion aussi à la consommation de vin chez les enfants.
Un menu scientifiquement équilibré tient compte, en ce qui concerne le choix des boissons, de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans.
Alors, pour les moins de 14 ans, tu sais, quand même, là, c'est sûr qu'au service de garde, un petit verre de rouge, ça pourrait peut-être causer un certain nombre de problèmes. Et je veux juste terminer avec cette dernière citation, quand même. du docteur Joyeux. Il porte quand même bien son nom. Je sais qu'il est aussi controversé, mais c'est un autre qui considère que la consommation de vin, c'est quelque chose qui peut aider. Puis j'entendais le docteur Junot hier chez Patrick qui disait, s'il y a des antécédents familiaux, si vous avez toutes sortes de problèmes, mais là, c'est autre chose. Mais c'est vrai que le vin a quand même un bon nombre de vertus.
Et ne pas oublier un ballon de bon vin à la fin de chaque repas.
Voilà. Alors, envoyez-moi vos courriels de bêtises.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Une histoire d'espion ce matin. Bien intéressant, c'est dans la presse. C'est le journaliste Vincent Larouche qui nous parle de ces espions russes, ces espions chinois qui œuvrent au Canada. Puis parfois, on a l'espèce d'image en tête d'opérations extrêmement sophistiquées, de haute technologie pour voler des secrets. Et vous allez voir que ça peut être pas mal plus simple que ça pour obtenir de l'info de ministères ou encore d'entreprises dans le domaine de la recherche, dans le domaine militaire ou des télécoms. Vincent Larouche est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez parlé donc avec les gens de la GRC qui vous ont donné comme une espèce de cours sur les façons que les Russes, les Chinois s'y prennent pour espionner. Évidemment, il n'y a pas toutes les techniques d'enquête, mais ça montre parfois que ce sont des stratégies vraiment terrain assez simples.
Tellement simple, peut-être que justement, on peut être porté à ne pas y faire attention puis à baisser la garde parce que ça semble tellement anodin. Mais ce que les policiers m'expliquaient, par exemple, ils disaient, des espions étrangers vont se rendre dans le stationnement, soit d'un centre de recherche ou d'un ministère, une entreprise qui détient des secrets très pointus en matière technologique. Ils vont laisser tomber des clés USB dans le stationnement, sans aucune inscription, rien, des clés USB tout à fait banales. Et là, ce qu'il me disait, le policier, il disait, écoute, il en laisse pas juste tomber une, il en laisse tomber 10, 20, puis 30, là, à la grandeur du stationnement, dans l'espoir qu'un employé qui se rend à sa voiture ou qui se rend à travailler ramasse par terre une clé USB, se dit, ah, je me demande qui a pu perdre sa clé USB, peut-être un de mes collègues, je vais aller la brancher dans mon ordi pour voir qu'est-ce qu'il y a dessus. Et sur la clé, vous l'aurez deviné, c'est un virus informatique qui est là, qui attend, prêt à ouvrir une brèche dans les systèmes de sécurité de la cible, de l'entreprise ou du ministère, afin que les services étrangers puissent pénétrer les défenses et explorer les secrets qui sont gardés sur les ordinateurs. Ça peut être encore, il y a des techniques, quelqu'un peut rentrer, se présenter à la réception d'une entreprise et dire à la réceptionniste, écoutez, je viens pour une entrevue, j'applique pour un emploi, mais mon CV est tombé dans l'eau. J'ai une clé USB ici, pouvez-vous m'aider à réimprimer une copie de mon CV avant l'entrevue? Et la personne va jouer un rôle, sembler très énervée, pour convaincre cette personne-là de brancher la clé dans le système de l'entreprise. Quelque chose, on nous a répété. C'est un classique, mais il, dans la tournée que la police et les services de renseignement canadiens font auprès des gestionnaires au Québec, ils le rappellent très souvent, si votre entreprise, votre ministère a des secrets très poussés récemment qui viennent d'être développés et que soudainement, quand vous sortez dans les bars, les restaurants, il y a beaucoup de beaux gars, de belles filles qui vous approchent, que vous semblez avoir un succès fou, questionnez-vous pour vous assurer, est-ce que c'est vraiment concomitant à une avancée technologique ou une avancée spéciale dans l'entreprise où vous êtes gestionnaire. C'est quelque chose, c'est peut-être la plus vieille ruse du monde là en matière d'espionnage, mais on nous dit que c'est un rappel qui doit être fait et qui malheureusement c'est une technique qui peut fonctionner encore à l'occasion.
Certains diront que la faiblesse humaine doit être identifiée et exploitée.
Voilà. Ça peut être quelque chose de très simple, Paul. Par exemple, un employé qui est fou de son chat, qui parle toujours de son chat, qui est un amoureux des félins, eh bien, ce qu'on nous dit, c'est que les espions sont très habiles à exploiter ce genre d'affinité-là pour simuler peut-être une urgence avec leur propre animal de compagnie, puis demander un coup de main qui permettrait peut-être de voir, de voir le mot de passe de quelqu'un pendant qu'elle nous rend un service pour nous aider avec notre animal, ou d'obtenir des documents qu'elle garde à son bureau, etc. Et tout ça, c'est principalement des formations qu'on donne à des gestionnaires qui travaillent au Québec. En ce moment, il y a une tournée qui est effectuée, mais on les avertit aussi sur les voyages à l'étranger. Dans certains pays, s'ils se rendent par affaires, on peut penser à la Chine ou à d'autres pays comme ça, mais on les incite à faire attention. Est-ce qu'on doit emmener son propre téléphone cellulaire ou est-ce qu'on pourrait pas avoir un appareil séparé spécifiquement pour le voyage dans ces pays-là jugés plus à risque pour éviter qu'ils soient compromis par des services de renseignement étrangers? On dit aussi de faire attention où on va se brancher. Si on branche nos appareils électroniques dans des pays comme ça, on dit évidemment, c'est peut-être une évidence aussi, mais de faire attention à ce qu'on dit dans les chambres d'hôtel, parce que si vous êtes détenteur de grands secrets technologiques, c'est très possible que quelqu'un soit à l'écoute dans votre chambre d'hôtel. Et une évidence peut-être aussi, mais on ne laisse jamais, jamais de secrets importants d'État ou d'entreprise dans le coffre-fort de votre chambre d'hôtel dans ces pays-là. Ce que les policiers nous disent, c'est avant que vous arriviez à l'hôtel, c'est clair, tout le monde a déjà le code pour fouiller là-dedans.
Dis-moi, est-ce qu'il y a plus de cas potentiels d'espionnage au Canada, au Québec, de Chinois et de Russes qu'avant? Est-ce que c'est parce qu'on s'y intéresse plus? C'est quoi l'activité terrain?
Bien, tant la GRC que le SCRS, les services de renseignement, nous disent il y a une hausse, on constate une augmentation, on en voit beaucoup plus. Par contre, il faut tempérer ça parce que, comme vous le dites, Paul, on cherche plus. Et donc, forcément, si on cherche plus de cas comme ça, si on est plus à l'affût, c'est sûr qu'on en trouve plus. Et si on se rappelle les années 2014-2015, on avait une vague de départ de jeunes Canadiens vers la Syrie. On avait des attentats terroristes, même en sol canadien, inspirés par l'État islamique. Et les ressources en matière de sécurité nationale, tant à la police qu'aux services de renseignement, étaient obnubilées. On peut le comprendre là, par ce phénomène-là de terroristes. Et donc, c'est ce qu'on cherchait beaucoup, c'est ce qu'on surveillait beaucoup. Et maintenant, il y a une nouvelle réalité avec la Russie, avec la Chine, et peut-être une accalmie côté terrorisme qui fait qu'on porte plus attention à ce phénomène-là. Mais on nous dit que vraiment, il y a une hausse de l'activité de puissances étrangères en sol canadien. Et pas seulement la Chine et la Russie. C'est les deux pays qui sont identifiés publiquement par les services de renseignement canadiens comme menant des activités hostiles ici. Mais on nous dit il y en a d'autres et on les garde à l'œil.
Merci beaucoup, Vincent Larouche, qui est journaliste d'enquête à La Presse.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
On apprenait ce matin l'arrestation du parrain, un des parrains les plus en vue, mais aussi en cavale depuis 30 ans, de la Cosa Nostra, donc en Sicile, Matteo Messina Denaro. Il a été arrêté à Palerme, visiblement dans une clinique médicale. Et je vous le disais, donc recherché depuis une trentaine d'années. On l'associe à une série de meurtres, notamment l'exécution de juge en Sicile. J'en parle avec Bernard Bedarida, pardon, qui est journaliste en Italie. Monsieur Bedarida, bonjour.
Bonjour, Paul.
Alors, d'abord, peut-être nous dire dans quelles circonstances Denaro a été arrêté.
Alors, il pleuvait des cordes ce matin à Palerme, lorsqu'un commando du ROS, le regroupement spécial opérationnel des carabiniers, a fait irruption dans cette clinique, la Maddalena, dont vous parliez tout à l'heure, une clinique privée du nord de la ville, spécialisée dans le traitement des cancers. Et ils ont arrêté, semble-t-il, d'après les détails communiqués à la presse, un monsieur de 60 ans qui attendait patiemment son tour afin de faire des analyses pour des examens médicaux. Il semblerait que les carabiniers étaient au courant de cette visite. Ils étaient sur la piste de Matteo Messina Denaro et préparaient l'arrestation depuis 3 jours. Matteo Messina Denaro, au-delà de la surprise lors de son arrestation, n'aurait pas tenté de fuir et se serait rendu en disant « Je suis Matteo Messina Denaro ».
Est-ce qu'on sait comment on a pu remonter à lui, quand même disparu depuis pratiquement 30 ans? Qu'est-ce qui a amené les policiers à aller vers cette clinique?
Alors, Matteo Messina Denaro était traqué depuis des mois, des années. On ne comprenait pas comment il parvenait à s'échapper. On ne comprenait pas parce qu'il était justement traqué. La moitié de sa famille avait été arrêtée. Les repentis étaient sur écoute. Il semblerait que des suiveurs de Matteo Messina Denaro aient trahi le boss. On en saura peut-être plus, on en saura très certainement plus cet après-midi lorsque les carabiniers vont révéler les circonstances de son arrestation, ce qui a précédé, comment ils en sont arrivés à lui, comment ont-ils pu savoir qu'il était à la clinique, alors que d'après les dossiers pris par les carabiniers juste au moment de l'arrestation, ils ont découvert que Matteo Messina Denaro était en soins auprès de cette clinique déjà depuis plusieurs années et qu'il avait fait une visite à la clinique déjà 6 fois.
Ce qui est assez extraordinaire, Bernard, c'est que des chefs mafieux peuvent disparaître pendant autant d'années. Il y a eu le cas de Bernardo Provenzano qui a été caché pendant 46 ans, Toto Riina pendant pratiquement 25 ans. Comment peut-on réussir à se cacher tant d'années en Italie?
Ah, vous savez, Matteo Messina Denaro, effectivement, était en cavale depuis 30 ans. Et ironie du calendrier, l'État italien a fêté hier les 30 ans de l'arrestation de Toto Riina, un autre boss disparu, introuvable, recherché, etc. Le chef suprême du clan des Corleonais. Matteo Messina Denaro devait être protégé par toute une série de complicités. Une série de complicités, même à en dire des magistrats de Palerme, au sein du tribunal de Palerme. À chaque fois, lorsqu'ils étaient sur le point de l'attraper, pouf, on ne comprenait pas pourquoi, ils disparaissaient, ils étaient introuvables, alors qu'ils étaient sur le point de le capturer. Un indice peut-être qu'il y avait des balances à l'intérieur de la magistrature qui révélaient à Matteo Messina Denaro une arrestation imminente.
Bon, parlons de lui, des activités criminelles, plusieurs meurtres, et on l'associe d'ailleurs aux attentats contre les juges antimafia Borsellino et Falcone.
Tout à fait. Matteo Messina Denaro avait été condamné à perpétuité, en particulier pour complicité dans ces fameux attentats de 92 qui avaient coûté la vie aux magistrats Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, à leur escorte. Et dans les attentats aussi, dans le reste de l'Italie, Milan, Florence et Rome, en 1993. Mais un autre assassinat était imputé à Messina Denaro, celui du petit Giuseppe Di Matteo, le fils d'un repenti de la mafia, séquestré puis fait disparaître dans l'acide. Quelque chose d'absolument épouvantable. Il était recherché, bien sûr, dans tous les coins de l'Italie, de la Sicile, aux États-Unis, en Afrique. La moitié de sa famille, comme je vous le disais tout à l'heure, avait été arrêtée. Mais, il était très différent, disons, de Toto Riina. Ussicu, on l'appelait Ussicu, le maigre, ou diabolique, en faisant référence à un personnage de bande dessinée italienne très célèbre pour ses déguisements. Matteo Messina Denaro avait, semble-t-il, se vantait d'avoir commis son premier meurtre à 18 ans. Il était très spécialisé dans le racket, les abattoirs clandestins, les pots de vin dans la réalisation des éoliennes et bien sûr la cocaïne. Comme je vous le disais, premier meurtre à 18 ans, il se vantait d'avoir assassiné jusqu'à 40 personnes.
Bernard, merci beaucoup. C'était Bernard Bedarida, qui est journaliste en Italie. Et je voyais ce matin différentes dépêches sur ce personnage qui, on lui rapporte certaines citations, entre autres, quand il a dit « J'ai rempli un cimetière à moi seul ». Évidemment, fait partie un peu du culte autour de l'individu qui était, de façon générale, peu discret par rapport à d'autres qui sont plus effacés. Mais c'est quand même assez spectaculaire de pouvoir vivre en Italie, en Sicile, 3 parrains qui, dans tous les cas, ont pu se cacher pendant des années avant d'être localisé. C'est un beau voyage en Sicile, par exemple. C'est un beau coin. Oui. Non, mais c'est. Je suis passé à Palerme sur l'autoroute qui. En fait, on avait installé une bombe sous l'autoroute. Les tueurs étaient à distance et ils étaient en chrono, on pense, avec peut-être un garde corrompu. Et la charge était absolument dévastatrice. Et quand vous passez aujourd'hui, ben il y a comme une plaque à la mémoire des juges antimafia. Et ça, c'était le juge Falcone qui avait sauté. Et l'autre juge était à son appartement où la bombe avait explosé. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont porter des fleurs. Mais ce sont des personnages mythiques là, Oui, oui, absolument, absolument. Et moi, je suis allé pour essayer de trouver la l'endroit où s'est caché M. Provenzano. On n'a pas eu beaucoup de coopération locale. Non. Ben, on posait des questions en disant, il était caché où exactement? Je sais pas. Peut-être où on pointait, tu sais, discrètement en disant, par là. Mais tu sais, par là, t'es dans un champ ou une montagne, c'est assez vague.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Maintenant, dans Le Devoir, ce matin, on raconte le combat d'une mère. Elle est maintenant en cours d'appel. Parce que les équipes de soccer, elles, en fait, c'est ce qu'elles demandent, que les équipes de soccer soient mixtes. Elles souhaitent que ces filles de 4 et 5 ans puissent être dans la même équipe que leurs amis garçons. Et ce qui est particulier dans ce cas-là, c'est que les enfants ont joué, ils étaient amis, et puis finalement, ben, ils ont décidé que non, pour des raisons d'organisation. Elle a perdu dans une première étape en cours, et là, elle est maintenant en bataille devant la Cour d'appel du Québec. On verra si elle pourra gagner sa cause. Surtout que c'est des enfants qui vont là pour jouer. Là, cet âge-là, là, c'est pas des ligues de compétition. Puis en plus, elle s'est fait répondre, semble-t-il, que c'est pas la même approche, gars-filles, des techniques d'entraînement qui sont quand même un peu différentes. La mère est avec nous, donc, Karine Bellemare. Madame Bellemare, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Parlez-moi d'abord de ces enfants, ces deux gars, ces deux filles. Ils ont commencé à pratiquer le soccer puis jouaient ensemble.
Oui, ben en fait ils ont commencé à jouer ensemble dans le voisinage. C'est des voisins. Bon, il y en a un qui était notre voisin d'en haut, l'autre le voisin d'à côté. Puis c'est des enfants qui avaient 3, 4 ans, 5 ans. Là. C'est vraiment des tout petits. Ils jouent dans la cour de l'un, dans la cour de l'autre, montent en haut, montent en bas. Bref, c'est des enfants qui s'amusent beaucoup entre eux. Puis les parents, ben, on se côtoie aussi à l'occasion.
OK. Mais une fois qu'on décide d'aller vers le sport un peu plus organisé, comment ça s'est passé?
Ben là, c'est ça. Il y en a un des parents, on voulait justement essayer une activité qui pouvait jouer les quatre ensemble. Puis, il y a un des parents qui a proposé des inscrire au soccer. Donc, on les inscrit au club de soccer dans notre quartier antique. Et puis, on les inscrit à la session hiver. Mais là, on parle de 2016. Hein. Il y a quand même 6-7 ans. Là. C'est pas récent, cette mm-hmm. situation-là. Là. Donc, on les inscrit à la session hiver. À chaque dimanche matin, on se rend là-bas. C'est du récréatif, évidemment. Du récréatif, là, c'est vraiment des mini-parcours avec des petits cônes. Les enfants essaient de suivre le ballon, suivre les consignes. C'est vraiment la base du soccer. À la fin, il y a une tentative de petit match qui essaie de bien indiquer aux enfants où lancer le ballon, mais c'est pas clair. Mais bref, c'est vraiment dans un esprit d'amusement et ludique. Là.
OK, mais ce sont les petits gars puis les petites filles qui jouent ensemble.
Oui, 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 la session d'hiver, c'est comme ça. Puis tout se passe bien, là, je vous dirais. Là.
OK. À quel moment ça se garde?
Ah, ben là, c'est ça. Là, la session prend, je crois, on arrive aux trois quarts de la session. Puis la coordonnatrice présente la future session qui était la session été. Donc, les enfants, ça bouge un peu, mais là, j'entends la coordonnatrice dire qu'il allait avoir deux parcs. Donc, là, elle présentait les deux parcs, un avec des lampadaires, avec du terrain, avec du gazon synthétique, l'autre, ça ne l'était pas. Fait que là, j'essayais de comprendre c'était quoi l'idée des deux parcs. Fait que là, je regarde le formulaire, puis là, je m'aperçois que les horaires, c'est différent, évidemment, parce que là, c'est deux fois semaine. Et puis, je m'aperçois que dans un des parcs, c'est les petites filles, et dans l'autre parc, c'est les petits garçons. Fait que là, je suis allée voir la coordonnatrice qui avait plein de questions de plein de parents. Puis je lui demande, ah, je vois que cet été, c'est divisé garçon-fille. Puis là, elle me dit, ah oui, l'été, c'est divisé. Puis je lui demande, mais pourquoi? Puis là, elle dit, ah, je ne saurais pas quoi vous dire, mais là-bas, l'entraîneur en chef pourrait vous donner les explications. Donc, je me rends à l'entraîneur en chef pour lui demander, pour quelle raison l'été c'est différent? Pourquoi c'est séparé garçon-fille l'été?
Qu'est-ce qu'on vous a répondu?
Ben oui. c'est là qu'on me dit ben les garçons, les filles, c'est différent. Fait que là, je lui dis, OK, c'est différent, qu'est-ce qui est différent? Puis là, je lui montre, admettons, avec mon pied, tu sais, la technique, c'est différent, c'est qu'est-ce qui est différent? Donc là, il me dit, ben l'attitude entre les garçons et les filles, on n'enseigne pas de la même façon aux garçons et les filles. Les filles, c'est plus fragile.
OK, mais est-ce que la vraie raison, c'est que l'hiver, on a moins de joueurs, donc on peut les regrouper, puis l'été, on en a plus, donc on fait des équipes différentes?
Ben à ce moment-là, c'est pas la raison
non.
qu'il me donne.
Okay.
Ben à ce moment-là, non, parce que je lui présente comme Juliette et Ulysse qui viennent d'arriver à mes côtés. Puis je lui dis ben par exemple cet été, est-ce qu'ils pourraient jouer ces deux-là ensemble? Puis là, il me répond, il dit non, ça pénaliserait Ulysse ça pénaliserait le petit garçon s'il jouait avec les filles.
Et en quoi ça le pénalise?
Ben là, je regardais l'entraîneur, puis là, je regardais mes enfants, puis là, j'essayais de comprendre. Il y avait un point d'interrogation dans mon visage, mais bon, il ne poussait pas plus loin l'explication. Donc, vu qu'il n'y avait pas de possibilité d'accommoder mes enfants, ben là, j'ai quitté le gymnase. Puis la coordonnatrice m'a dit, puis est-ce qu'il a répondu à vos questions? Là, je lui ai dit, ben, plus ou moins, là, il m'a expliqué que les filles étaient plus fragiles. Donc, non, j'ai pas eu cette réponse-là, moi, initialement.
Mais il y avait. On va être obligé de conclure, mais est-ce que quand même, dans votre cas, là, c'est une bataille. Vous êtes allé en Cour du Québec, vous avez perdu, puis là, vous êtes rendu en Cour d'appel.
Oui, ben même au début, on est allé en médiation. On a essayé de trouver, parce que nous, les propos de tenue étaient comme, selon nous, stéréotypés. Puis en plus, la non-possibilité de nous accommoder à ce moment-là, on trouvait que c'était pourtant assez simple de nous accommoder pour nos enfants. Donc, là, ça a été en médiation. Après ça, ça a été devant le tribunal des droits de la personne, avec la commission des droits de la personne, heureusement. Et puis, la décision a été rendue. Puis là, on est rendu en appel de décision. Et donc, hier, c'était en appel.
Allez-vous vous rendre jusqu'à la Cour suprême?
Ça, c'est une excellente question.
Je vous laisse y penser. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, monsieur.
Au revoir. Karine Bellemare, donc la mère de ses enfants, nommée petit gars, petite fille, puis là... Et le juge a dit qu'ils n'avaient pas été lésés en cour première instance, la Cour du Québec, en disant qu'ils pouvaient jouer, que les terrains étaient similaires, que les ressources étaient les mêmes, et que bref, il n'y avait pas de discrimination. Mais là, on parle toujours d'enfants là, de 5-6 ans au début, là, 7 ans, qui vont jouer strictement pour le plaisir.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
À la fin du mois de septembre dernier, notre collègue Luc Lavoie a quitté l'antenne pour des raisons de santé. Il a partagé avec les auditeurs un diagnostic qu'il avait reçu de cancer. Ça voulait donc dire chirurgie, ça voulait dire traitement, convalescence. La bonne nouvelle, c'est qu'il va mieux et qu'il sera de retour lundi avec Luc Ferrandez à l'émission du midi. Luc, bonjour.
Salut, Paul.
D'abord, comment ça va?
Ah, ça va bien. Franchement, ça va très bien. Après ce que j'ai connu, je me sens vraiment bien.
Quand tu dis « tu te sens bien », ça veut dire quoi?
Ça veut dire que j'ai cessé d'avoir mal un peu partout. Ça veut dire que je n'ai plus les effets secondaires attribuables au traitement. Ça veut dire aussi que je me sens mieux dans ma tête, parce que quand ça dure pendant des mois, ce que je viens de décrire, à un moment donné, tu deviens un peu... Mossad, disons, pour employer un euphémisme.
Remontons dans le temps. quand tu as reçu le diagnostic, ça a été évidemment un choc, j'imagine. Puis tu as réagi de quelle façon?
Ben écoute, c'est drôle, tu réagis... Moi, en tout cas, je me suis senti comme perdu. Tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi faire. T'écoutes ça, puis soudainement, tu te rends compte que ta vie est entre les mains de ces spécialistes-là, puis il faut que tu l'acceptes, et ça, c'est bien difficile. Et d'ailleurs, là-dessus, je rends hommage à un de mes amis, là, que je nommerai pas, et qui a traversé quelque chose d'un peu similaire, et qui me disait, si tu veux que ça marche, puis que tu t'en sortes, il faut que tu te dises, fais confiance à ces professionnels-là, sinon tu t'en sortiras pas. Si tu continues toujours à, excusez l'anglicisme, à double-guesser tout le monde, tu t'arriveras nulle part. Il faut que tu fasses confiance, et c'est ce que j'ai fait.
Quand on te dit cancer du poumon, es-tu le genre de personne qui veut avoir l'heure juste ou quelqu'un qui veut juste savoir l'essentiel?
Ben non, tu veux avoir l'heure juste, et je dois dire là-dessus que les médecins sont assez, je dirais pas, c'est pas brutal, mais c'est carré, là. Tu sais, tu veux savoir, ben voilà, c'est ça, ça, ça et ça. Alors au début, tu trouves ça un peu, c'est presque agressant, mais à un moment donné, t'es reconnaissant, je veux dire, ils te racontent pas des histoires, ils te disent, bon, tu veux savoir ça, ben c'est ça, ça et ça. Alors tu suis la parade.
Et ça implique quoi comme traitement?
Ah ben, tu vois, le cancer dont j'ai été victime est un des cancers les plus répandus. Et pour cette raison-là, on dit que dans le domaine de la médecine, dans les 10 dernières années et en accéléré depuis 5 ans, les plus grandes avancées ont été dans le traitement de ce cancer-là. Et donc, ce que j'ai reçu, c'est un traitement d'immunothérapie mélangé avec de la chimiothérapie. Et l'immunothérapie, c'est quasiment un miracle, ce qu'ils ont réussi à faire depuis quelques années. Entre autres, avec la participation de chercheurs de Montréal, ce sont des consortiums internationaux de centres de recherche, d'universités, d'hôpitaux, qui travaillent ensemble et qui ont développé ce médicament-là ce traitement-là, qui fait que aujourd'hui je suis en train de vous parler et puis que j'ai hâte de reprendre le micro. Ils ont avancé d'une façon incroyable. Le type de diagnostic que j'ai reçu au mois d'août, il y a encore moins que 10 ans, c'était presque une condamnation, tu comprends? Et maintenant, c'est le contraire. Il y a des cas comme le mien, il y en a plus qu'un. Ce n'est pas un cas miraculeux, le mien. C'est ceux qui ont pu bénéficier de ces traitements-là. Moi, par exemple, le traitement d'immunothérapie que j'ai reçu, c'était une nouvelle génération. J'ai été un des premiers au Canada à le recevoir. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même des tests qui ont été faits, mais en termes de médicaments homologués, j'ai été un des premiers à le recevoir. J'ai été chanceux. Et ça donne ces résultats-là. Je me souviens que mon généraliste, le premier avec qui j'ai parlé, le docteur François Mercier, m'avait dit « C'est moins pire que tu penses. » Parce que je pense que j'étais un peu nerveux sur la ligne. Il dit « Je te le dis, c'est moins pire que tu penses. C'est presque un miracle ce qu'ils ont réussi avec l'immunothérapie. »
Mais quand même, quand t'entends le mot « cancer », quand le verdict te tombe, on passe dans la tête à peu près tous les scénarios.
Ben c'est sûr. Hein. C'est la première fois, dans mon cas en tout cas, c'est la première fois que tu te retrouves dans un scénario où t'es confronté à la mort. C'est là, puis on suit le protocole du traitement, et puis tu te dis, ben si ça marche pas, là, ben je vais mourir. Je te dis que ça tient, disons, les sens assez éveillés.
Ça veut dire que t'as arrêté de fumer?
Ah, ça a été dur. Ça a été assez dur, en effet, parce que j'étais un vrai fumeur. Mais oui. J'ai eu des récidives, je l'admets.
OK, mais je veux t'entendre sur ce passage-là, parce que, tu sais, veux pas, il y a beaucoup de gens qui t'écoutent ce matin puis qui se disent, ouais, mais là, tu sais, on pense pas à ça quand on fume. On le sait, mais on y pense pas. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire?
Oh, tu comprends que le grand pêcheur que je suis n'a pas de leçons à donner
non,
à personne.
Non, pas des leçons.
Mais moi-même, Paul, écoute, je peux pas dire le contraire. Je le savais, c'est quoi le danger. S'il y a quelqu'un qui connaît le danger, c'est le fumeur. Hein? Je le savais que le danger était là, pourtant j'ai continué. Alors, je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui dit « Wow, j'ai vu la lumière. »
Non.
Écoutez-moi.
Non, ça, je suis d'accord. Mais t'as quand même... D'abord, t'as pris la décision d'arrêter, t'as eu des rechutes, ça n'a pas été facile.
Mm-hmm.
Ça a été difficile quand même.
Ah ben oui, écoute, quand ça fait des années que tu fumes, et comme me l'a dit un des médecins, on peut pas nier que la cigarette, qui est rien de très très bon, a quand même une vertu, c'est que c'est une forme de calmant. Et ceux qui se sont habitués à ça, ben ça leur manque.
Quand on suit les traitements, puis il y a des intervalles, puis il y a des moments, j'imagine, où on se sent mieux, puis d'autres fois, on se sent un peu moins bien, puis tout ça. Tu as dit tantôt que tu jonglais, que tu as fait une espèce de ménage dans ta tête. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ben, ça veut dire que, par exemple, moi, quand j'ai arrêté de travailler, c'était parce que les médecins insistaient. Moi, j'avais dans ma tête que j'allais continuer, puis tout ça. Et ça veut dire que tu te retires du travail. J'ai jamais fait ça de ma vie, me retirer du travail. Tu te réveilles, puis tu dis, bon, là, je travaille plus, je suis chez moi, je suis un horaire qu'on m'a donné, il faut que je sois à l'hôpital à telle heure, tel jour, rencontrer tel médecin, il faut que j'aille passer tel test. Et là, ta vie devient complètement organisée autour de ça, et t'es toujours en train de penser à ça. C'est ça qui est le pire, Paul. C'est que tu y penses constamment. Tu te lèves, tu y penses. T'as la moindre douleur, tu dis, ça doit être lié. C'est pas nécessairement le cas, mais c'est ce que tu penses. Et là, tu deviens, je sais pas, dans ta tête, ça finit par faire mal. Ça finit par donner des maux de tête, crois-moi.
Mais comment t'es avec l'entourage? Est-ce que les gens t'en parlent? Tu veux pas en entendre parler?
Ben, ça, c'est une des affaires. C'est assez particulier, ça. J'avais pas vu ça venir. C'est que quand t'as ça, puis que ça se sait autour de toi, tout le monde devient un expert en cancer. Je veux dire, là, c'est comme, ah oui, quel stade t'es, ah oui, ah ben là, tu réponds mécaniquement, tel stade. Ah ouais, mon chum, un tel, lui, c'est un autre stade, hein, oui, c'est correct. Puis là, ils vont-tu te faire ci ou ça, puis là, as-tu commencé ci, as-tu commencé ça, des fois, c'est complètement à côté de la plaque. Ça finit par être un peu agaçant. T'as toujours, et moi, j'ai finalement adopté la position de dire, écoute, j'ai pas grand-chose à dire, là. Il y a d'autres gens que moi qui sont malades. Je suis malade et puis j'ai pas vos conseils puis votre opinion éclairée. Franchement, ça m'aide pas beaucoup.
À quel moment t'as su que le traitement avait donné de bons résultats puis que tu pouvais envisager de retourner au travail?
Avant-hier, ben oui.
T'as pas niaisé trop.
Non, ben j'ai eu une chirurgie le 19 décembre. Et puis après ça, ils font ce qu'ils appellent, je crois qu'ils appellent ça une analyse pathologique. Et j'attendais ces résultats-là. Je savais que c'était important. Mais tu viens que tu sais plus, Paul, tu comprends? Tu te fais opérer le 19 décembre, c'est Noël, tu veux être là avec la famille, les petits-enfants, tout ça. T'es pas très en forme, puis là, ça finit par... Bon, c'est pas une période bien agréable. En tout cas, peu importe, je m'en allais les rencontrer... principalement le docteur Spicer, qui est le chirurgien qui a possédé à l'intervention chirurgicale. Là, je m'installe dans son petit cubicule, puis il a l'air particulièrement cool. C'est vrai que c'est un gars cool, là, mais il a l'air particulièrement cool. Et là, il commence à, si on veut, cocher dans la liste. Là. Telle chose, c'est correct, telle autre, c'est correct, telle autre. Puis là, j'étais là, puis je me disais, là, il va avoir une surprise, là, il va m'annoncer quelque chose. Là. Eh bien, non, j'ai dit, ben c'est tout. Il dit oui. Et là, c'est lui qui me pose la question. Il dit, aimez-vous ça, votre job? Ben, j'ai dit, je l'ai jamais aimé autant que maintenant. Là. Depuis que je ne la fais plus, je me demande comment faire. J'arrête pas de tourner en rond. Bon, ben, il dit, si vous aimez votre job, là, vous pouvez recommencer tout de suite. Là. Ben, j'ai dit, tout de suite. Dis-le, là, cet après-midi, c'était un midi. Ben, au lieu d'être l'après-midi, ça a été le lendemain, j'ai recommencé à travailler. Et voilà, j'étais tellement content de revenir. Et juste ça, c'est une forme de traitement. Mentalement, tu te sens tellement mieux.
Tu as dit quelque chose de très important au début. Tu as parlé de la recherche médicale à Montréal. Puis souvent, on l'oublie, mais on a des institutions implantées avec des chercheurs de renommée internationale, que ce soit le Centre de recherche du CHUM, il y a un paquet d'autres institutions. Et on n'en parle pas assez souvent, je trouve.
Tu as tellement raison.
Du travail qu'ils font, puis des découvertes qui arrivent à propulser à l'avant.
Ah non, t'as tellement raison. Moi, j'étais pas au courant de ça. Par exemple, ce chirurgien, Jonathan Spicer, c'est un trésor pour le Québec, parce que c'est un gars qui a fait son PhD, son doctorat, en plus de sa spécialité, et qui a travaillé dans le plus grand centre d'oncologie au monde, celui d'Houston au Texas, le MD Anderson, et qui est revenu à Montréal, d'où il était originaire, et qui, en plus de faire lui-même de l'intervention chirurgicale. Il est professeur et il est chercheur. Ce médicament qui a été utilisé pour moi, il faisait partie de l'équipe internationale de recherche qui l'a développé. Alors, j'ai découvert à travers ça, écoute, on parle beaucoup contre le système de santé. Ouais. Je pourrais prendre le côté négatif, Paul, puis te dire toutes les affaires que j'ai traversées qui n'étaient pas toutes aussi drôles les unes que les autres, mais quand t'es entre les mains de professionnels, faut bien le dire, ils sont de classe internationale. Et j'étais tellement heureux de découvrir ça, de savoir qu'on était impliqué à ce niveau-là, mondialement, dans la recherche de ces produits-là qui ont fait tellement pour la vie de milliers et de milliers de personnes. Et l'autre chose, tiens, je vais faire du coq à l'âne, mais je peux pas m'empêcher de le faire. Pendant que je vivais les derniers moments, les dernières semaines, il y a eu des nouvelles qui sont sorties comme de quoi. Moi, j'ai été traité au CUSUM, qui est le Centre universitaire de santé McGill. C'était pas un choix, c'est que quand ils ont fait le diagnostic, à un moment donné, le généraliste cherche l'endroit où il y a quelqu'un de disponible, puis bang, je suis tombé comme ça. Et là, ben, je m'attendais de m'en aller dans un univers anglo-saxon. Mais c'est pas vrai, là. Ceux qui racontent qu'on peut pas être servi en français, mais j'étais même très, très impressionné, là. C'est un endroit où tout est bilingue et tout est parfaitement, en fait, est servi en français à la perfection. C'est un hôpital ultramoderne. Alors, c'est je veux le souligner, il y a des gens dans ça. Il y a aussi le docteur Ofiara, l'oncologue, qui a été extraordinaire. Alors, on a ça chez nous. Si on était capable d'organiser ce qui est autour de ces grands professionnels-là, on aurait un très bon système de santé.
Très heureux de voir que tu vas bien, puis hâte de t'entendre lundi. Merci, Luc.
Au plaisir, Paul.
Au revoir. Luc Lavoie.
L'essentiel de Paul Arcan. Les grandes entrevues de la semaine.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.